Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 8, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Mag.
Salut Luc.
Donc cette semaine, pas de semaine.
Et non, ça a été un peu court. Je pense que tous les journalistes sont en vacances. Il y a eu à peine un article qui parlait d'open source. Donc, pas de revue de presse publiée cette semaine. Donc, on n'a pas à en parler cette semaine.
Alors, pourquoi on fait une décryptualité? Pourquoi on se met pas en vacances, nous aussi?
Alors, on aurait pu, mais en fait, il y a plein de choses à dire.
Effectivement, on a envisagé de parler des bracelets brésiliens de Nicolas.
qui revient de vacances sûrement.
Voilà. Mais en fait, l'idée était de parler de manipulation essentiellement, et notamment au travers des jeux vidéo. Alors, on avait parlé il y a quelques temps des déclarations fracassantes d'anciens responsables de Facebook, qui avaient dit que Facebook était en gros une sorte de monstre hors de contrôle et qui nuisait à la société, et avec ce principe de contrôler, en tout cas de hacker le cerveau humain, et les récompenses de la dopamine.
Là, c'est que Facebook et les autres sont des vrais dealers, en fait, en essayant de rendre accro les utilisateurs et d'activer les centres de la récompense et toutes les hormones qui vont avec, et d'échanger, du coup, votre participation au réseau contre des joies, des drogues.
Donc, c'est quelque chose qui est remonté pas juste par nous, des chercheurs ou des gens qui se plaignent, non, c'est remonté par des gens du milieu.
Oui, et puis avec des analyses scientifiques, c'est pas des choses qui sont sorties de nulle part, hein. C'est appuyé par des études et autres. C'est prouvé que ça marche. On arrive à influencer les l'humeur des gens avec.
Oui,
avec
bon, ce c'est vrai, ça marche. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en parler non plus.
Des jeux vidéo qui rendent des gens accros.
Ah, bah, Mag. Je te rappelle d'un jeu avec des fleurs, des jardins, des machins, un truc mûche, et où j'ai passé un temps fou dessus, incroyable.
Et puis un jeu où il fallait reconnaître des scènes de crime aussi.
Ah oui, les scènes de crime, c'était génial ça.
Et un jeu avec des bonbons qui tombent.
Ah, Candy Crush. Oui, bon, on va parler d'autres choses là.
C'est le sujet, madame.
Candy Crush, donc, pense que tout le monde connaît le jeu, il y a au moins joué, et qui joue sur la frustration en te mettant des niveaux que tu n'arrives pas à passer, puis tu galères.
Un grand jeu qui a percé à l'époque et qui a fait beaucoup de bruit, et il a rendu ses créateurs riches. Multimillionnaires, je sais pas s'ils sont pas multimilliardaires d'ailleurs.
Ouais, je crois qu'ils avaient été rachetés quelques milliards par une. C'était Facebook ou WhatsApp.
Oui, des gros trucs.
Bon, alors, du coup, comment ils génèrent la frustration? Comment ils hackent le cerveau? Alors,
parce que t'arrives pas à aligner, parce que. Alors, il faut aligner forcément pour éliminer des bonbons d'une telle ou telle couleur, mais surtout, t'as des options, t'as des fonctionnalités, t'as des défis. Et souvent, le but, c'est de virer tout ce qu'il y a, tous les bonbons. Ah, plus de bonbons, t'as tout mangé. Enfin bref, t'as tout aligné. Et mais tu n'y arrives pas forcément, quoi. C'est pas parce que tu arrives à faire des lignes de bonbons que tu obtiens de faire tomber telle cerise ou.
D'accord, alors oui.
Mais oui, je suis frustrée, oui, ça se sent, oui.
Ça se ressent.
Donc, du coup, évidemment, on a cette grille avec plein d'éléments. En fonction des éléments qui tombent, c'est plus ou moins facile. Et donc, évidemment, comme c'est le jeu qui fait tomber les éléments, ils ont toute liberté pour faire tomber les éléments qui permettent de passer le niveau facilement ou d'envoyer les éléments qui ne permettent pas de passer le niveau.
Et c'est vrai que pour un humain, c'est difficile de savoir si c'est réellement aléatoire ou pas, parce que bah, des fois, on va gagner, des fois, on va perdre. C'est vrai que les concepteurs derrière bah, peuvent voir que ah, bah, là, ça fait un peu longtemps que tu es en train de jouer, donc on sent que tu vas partir, donc on va te faire perdre plusieurs fois pour te faire accrocher. Alors que si tu gagnes, bah, généralement, on dit bah, oui, la prochaine fois que je gagne, je m'arrête et bah, on va perdre l'utilisateur.
Sachant qu'il y a pas mal d'effets sociaux qui se mettent en jeu, parce que bah, Candy Crush, je regardais jouer Mag hein, quand elle le faisait, c'était pas désagréable à regarder, hein. ça me plaisait bien.
C'est mignon.
Oui, oui, effectivement, parce que c'est des jeux qui sont jolis, où il y a des stratégies à mettre en place, de la reconnaissance de forme, donc ça fait travailler le cerveau, en fait, c'est plutôt agréable. Et je la voyais qui jouait et qui montait les niveaux, et quand elle montait les niveaux, elle voyait ses copains, copines sur Facebook, qui eux aussi montaient les niveaux, et elle pouvait se comparer.
Ah, les notifications Facebook. Ça, ah, j'étais contente quand le jeu est sorti de Facebook et qu'il est devenu indépendant, quoi. On pouvait jouer sans
si
avoir.
Avant ça, tu voyais un petit peu ton entourage, les clients, les choses comme ça, tu voyais où ils en étaient.
C'était le concours de bites, quoi.
Bah, n'ayant pas de bites, j'étais sûre de perdre.
Le concours de bonbons, voyons, Luc.
Bah, voilà. En tout cas, première manipulation, hein, sur déjà la question du concours. Avec aussi cette idée que quand on invite des amis, on peut avoir des bonus. Donc, en répandant le jeu...
Il y avait moyen d'échanger des vies. C'est-à-dire que tu donnais des vies, je la voyais faire, tu permettais aux autres de jouer. Et il y avait une frustration qui était innée dans le jeu. C'est-à-dire que quand tu perdais, tu ne pouvais pas rejouer avant un certain temps, à moins d'avoir engrangé des vies d'avance. Que tes amis t'aient donné des vies. Mais au bout d'un moment, tu les usais, tes vies. Et tu ne pouvais plus jouer pendant une heure, deux heures ou une nuit. Voilà. Et tu devais attendre que ça se reconstruise.
Je suppose que tu pouvais les acheter quand même.
Alors, bien sûr, chaque fois, il te proposait, voulez-vous racheter pour pouvoir continuer à jouer? Et donc, tu avais ce côté, je suis frustré, je suis en train de gagner, mais je viens de perdre une fois, et je dois attendre plusieurs heures avant de reconstituer et de pouvoir rejouer.
Et tu avais des grosses pubs du genre, mais ce coup spécial-là, vous pouvez l'acheter pour tant d'euros, et tu voulais absolument l'avoir pour gagner ton niveau sur lequel tu étais coincé depuis un certain temps, fallait passer au tiroir caisse.
Et là, tu vois clairement le côté machine à sous, où toi, t'es en train de jouer, tu perds, parce que c'est la base, il faut toujours perdre, c'est ça la règle. Et de temps en temps, on gagne, et le fait de gagner de temps en temps, c'est là qu'il y a le déclenchement de la dopamine, et c'est là qu'on devient accro au jeu. Et effectivement, c'est des jeux, une fois qu'on est dedans, je pense qu'on n'en sort pas comme ça.
Alors, dans le monde des jeux vidéo purs et durs sur console ou PC, etc., il y a des tas de choses qui se font. Alors, il y a des jeux où on va pouvoir acheter des bonus, mais qui n'offrent pas d'avantages particuliers, c'est juste que c'est de la cosmétique, et comme on veut se distinguer par rapport aux autres, on va acheter ce genre de choses. On a d'autres jeux en revanche où il y a plein de trucs à vendre pour être plus fort. Il y a notamment des jeux qui sont gratuits quand on les installe, on ne demande rien. Par contre, si on veut des armes bonus ou des choses comme ça, il faut payer.
Nicolas. Ouais, ça va être tous les MMORPG, World of Warcraft, tous les trucs comme ça, où le fait de payer, déjà, effectivement, on peut acheter directement du matériel qui va nous faire monter dans les scores parce que du coup, le jeu sera plus facile, où on va pouvoir buter plus de monde, etc. Il y a aussi le fait de payer pour s'éviter des peines très longues parce que les jeux, il faut farmer. En gros, il faut faire des choses très répétitives en 2 heures. Ça, c'est super chiant. Du coup, les gens vont payer aussi pour accélérer ça.
Ça doit exister encore, ce qu'on appelait le gold farming, qui était une activité notamment en Chine, dans des genres de pays.
Le fermier chinois.
Voilà, on prend des pauvres malheureux qu'on met dans des salles mal éclairées avec des vieux écrans pourris qui leur ruinent les yeux, puis ils passent toute leur journée à jouer stupidement pour faire monter un personnage qu'on va revendre contre du vrai argent à un joueur impatient qui veut devenir tout de suite balèze.
Mais ça avait été interdit par pas mal de boîtes qui justement voulaient pas.
Il veut pas de concurrence, quoi.
Pas de concurrence, puis surtout l'argent n'allait pas à la boîte éditrice du jeu et plutôt à d'autres petits malfrats qui s'amusaient à se faire de l'argent comme ça. Quoi.
Donc le principe commercial, il peut aller assez loin. Donc il y a également ce qu'on appelle les DLC. Donc en gros, on achète un jeu et il y a des contenus supplémentaires.
Ça veut dire quoi, DLC ?
C'est downloadable content, si je veux le dire à l'anglaise. Donc du contenu téléchargeable. Et donc en gros, on sort le jeu. Et puis si on veut avoir de nouveaux niveaux, du nouveau matos ou des choses comme ça, il faut payer en plus. Et certains éditeurs se sont fait une spécialité de faire des jeux qui sont finalement totalement incomplets et où les DLC sont déjà sur le jeu quand on l'achète, mais ils sont bloqués. Et ça peut être assez vicelard, puisqu'il y a un éditeur notamment, mais je suppose que ça se fait ailleurs, qui en fait, au moment où on achète le DLC, va bloquer des éléments qui étaient non bloqués dans le jeu initial. C'est-à-dire qu'au moment où on achète quelque chose, on a des accessoires en plus, mais on perd d'autres accessoires.
Ça se remplace, quoi.
Voilà, on perd des éléments pour te faire régresser là-dedans, pour te revendre encore des choses. Et on a également des principes, ce qu'on appelle les loot box. Donc ce sont des choses où c'est un tirage au sort et on peut trouver ou racheter des éléments mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Et là, ça rappelle un peu les autocollants
des Panini ou
les cartes Magic qui sont arrivées dans les années 90.
Oui, on achetait un pack et on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans le pack.
Mais sauf que ça a été tellement loin que l'Argel, donc l'autorité de régulation des jeux en ligne, des jeux d'argent en ligne, a dit stop, on arrête là parce que là, vous êtes franchement sur un truc qui est en train de se rapprocher d'un casino ou pas loin. Et donc, vous arrêtez votre bordel, on va mettre des plafonds, des limites ou des choses comme ça. Vous allez devoir indiquer les taux de récupération de tel ou tel objet.
Et
parce
peut-être
que
payer des taxes bien plus grosses.
Et payer des taxes aussi, parce qu'ils en arrivaient. Ouais. Ça, en particulier, il y a un jeu, j'ai plus le nom en tête, mais qui a fait la une là-dessus, parce que tout était basé sur les lootbox, et c'était juste abusé complètement.
Il y a le dernier jeu Star Wars, et qui a fait un scandale
c'était
énorme.
C'était peut-être le Star Wars, ouais. Ouais.
Et notamment parce que le jeu coûte, je sais plus, 80€, un truc comme ça, et on peut pas jouer des personnages de base du film, genre tu peux pas jouer Dark Vador alors que t'as mis 80€ dans le jeu.
Quoi ? On peut pas jouer Dark Vador ?
Tout est bloqué, et en fait tout se passe par des lootbox.
BB-8 au moins, quand même.
Non, mais tu peux aussi acheter des DLC. Mais voilà. Alors, donc on est dans ce système totalement enfermé, et on voit que l'éditeur peut nous emmener quelque part, nous bloquer, nous faire régresser, et en fait il fait ce qu'il veut, et en gérant avec tous ses principes de frustration. Il y a un autre élément que moi j'ai trouvé très intéressant, qui a priori pour l'heure n'est qu'un brevet qui a été déposé par Activision, qui sont semble-t-il un peu les spécialistes du truc pour rincer les clients, qui consiste à dire de manipuler les joueurs en prenant par exemple le profil d'un joueur. Si on prend un jeu de tir, on va dire ce joueur-là il aime jouer sniper, et donc on va le mettre dans certaines circonstances qui vont favoriser l'achat d'une arme. Par exemple, on va le mettre face à un joueur meilleur que lui, avec cette arme qu'on essaye de lui vendre, et en face on va mettre des joueurs qui sont moins bons, et du coup ce joueur qu'on cible va voir un joueur meilleur que lui faire des carnages avec une arme qu'on essaie de lui vendre en se disant bah grâce à cette arme il est super efficace. On peut imaginer faire totalement l'inverse, c'est-à-dire frustrer le joueur, l'empêcher de gagner en lui mettant que des joueurs plus forts que lui. Le jour où il achète une arme, et ben là on lui mettra des joueurs moins forts, et donc on se retrouve dans un univers qui est complètement virtualisé où le joueur est complètement manipulé. C'est un peu
Matrix, mais là, quoi. Là tu sous-entends qu'on va surveiller joueur par joueur par joueur par joueur.
C'est automatisable.
Ça peut être automatisable, puis après ça va être l'effet de masse, hein. C'est peut-être pas un joueur, ils vont peut-être pas réussir à le manipuler correctement, mais sur la centaine ou les milliers de joueurs qui vont appliquer cet algorithme-là, bah même s'ils ont 10% ou 20% à aller acheter l'arme, ça sera tout, ça fait toujours du chiffre d'affaires supplémentaire.
Ils peuvent cibler
ça
les joueurs qui sont allés sur la boutique et qui sont allés voir les nouvelles armes, et ils se disent bah s'il va sur la boutique, c'est que potentiellement il est intéressé, donc il est une cible potentielle.
Et en plus, c'est pas forcément des choses qui coûtent très cher à mettre en place du côté des serveurs et du côté de l'éditeur, et puis bah c'est toujours du chiffre d'affaires supplémentaire entre ne rien vendre du tout ou mettre ça en place et puis bah espérer qu'il y ait quelques-uns qui mordent à l'hameçon, sachant qu'il y a ce qu'on appelle les baleines dans le monde des jeux vidéo qui sont
donc
des...
c'est les gros dépensiers,
c'est les gros dépensiers. Il suffit d'en faire un ou deux, ils peuvent lâcher facilement plusieurs dizaines de milliers de dollars dans des jeux par an sans broncher, quoi.
Alors moi je pense que ce genre d'algorithme il est envisageable, hein, bien sûr, mais que ça me paraît très compliqué à mettre en place et que généralement en informatique on fait beaucoup plus d'erreurs qu'on fait de réussites. Les faux positifs sont des preuves de cela, mais ça n'empêche que l'idée est intéressante et qu'il faudrait savoir comment ça se passe dans les logiciels. Et là, bah, à un moment donné, il faut connaître les algorithmes, il faut être capable de voir le code source. Et tant que ça reste des boîtes noires, eh bien, on ne peut pas prouver dans un sens ou dans un autre s'ils utilisent des algorithmes de manipulation aussi outrants que ceux-là.
Tu parles de jeux vidéo, tu parles de code source, on va reparler logiciel. Tu crois vraiment que les gens qui font des jeux vidéo propriétaires ont très envie de partager leur code source,
hein? Alors, il y a des gens, et des joueurs notamment, qui ont parfois beaucoup de temps à passer et qui vont faire du reverse engineering. Il suffit de voir les gars qui reprennent des vieux serveurs, du vieux code, des vieux logiciels et s'amusent avec, encore aujourd'hui. Il y a des gars qui s'amusent à faire des calculs de statistiques, de probabilités et qui creusent tout ça. Alors, un exemple typique, c'est les joueurs de poker. Les joueurs de poker, on leur fait pas. Et s'ils se rendent compte au bout d'un moment que le serveur triche, et ça arrive, hein, clairement, eh bien, si, il y a eu des cas de serveurs de poker en ligne qui rinçaient les joueurs d'une manière ou d'une autre, où, par exemple, les patrons jouaient contre les joueurs en regardant les cartes, hein, pas plus compliqué que ça. Eh bien, les joueurs, à un moment donné, ils font des statistiques, des probabilités, ils y passent du temps. Tu tombes toujours sur quelqu'un de très motivé, et éventuellement, au bout d'un moment, ça peut arriver que les gars reversent le truc et ils découvrent le poteau rose.
Puis on a aussi quelques exemples de jeux qui sont devenus libres avec le temps, alors par la force ou par la bonne volonté. Il y avait le moteur de Quake qui avait été libéré pour et qui est utilisé dans aujourd'hui beaucoup de logiciels de FPS ou autres. Il y a Zero AD qui a été un espèce de spin-off de Age of Empires qui a été complètement refait depuis Zero. Il y a eu tous les Roller Coaster Tycoon qui ont été aussi réimplémentés. J'ai plus le nom d'ailleurs de la version libre, mais ça, ces jeux-là ont été réécrits en version libre. Et donc aujourd'hui, on peut y jouer sous Linux sans aucun problème.
Pour moi, ce qui est quand même important dans cette histoire du jeu, c'est que le jeu, il a une valeur éducative. Il faut bien penser qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui jouent aux jeux vidéo, qui se confrontent les uns aux autres, et ce qui est complètement normal. On fait ça par le sport, on fait ça par plein de manières. Et à partir du moment où les dés sont pipés et où on est dans un environnement complètement faux, ça me fait penser à Matrix. On pourrait se dire qu'on est en droit d'exiger une loyauté à partir du moment où on dit bah les gens se confrontent les uns aux autres. Enfin, il y a toujours eu ce côté frime de j'ai le super matos, j'ai le super maillot, j'ai le super truc, je frime avec, j'ai les moyens d'eux. Potentiellement le jeu qui dit tu seras plus fort si tu payes, bon, au moins, enfin... C'est un peu dégueulasse, mais au moins c'est visible. Le jeu qui dit « je ne te montre rien, je te manipule et je te fais croire que tu es pas bon ou meilleur ou quoi parce que j'ai toute une stratégie pour vendre ceci, cela », elle est en train de changer les interactions entre les gens.
Enfin, elle est possiblement en train de changer les interactions. Voilà.
En fait, on n'est plus en train de jouer à un jeu, c'est l'éditeur qui est en train de jouer avec nous, quoi.
Voilà, c'est à peu près ça. Encore une fois, on est le produit.
D'un autre côté, vous n'êtes pas rendu compte que bah, nous, on a été élevés avec des jeux vidéo où notre but, c'est d'aller le plus loin possible, le plus longtemps possible, mais que la nouvelle génération, leur but, c'est pas forcément de jouer longtemps. Ils sont habitués que bah ils vont pouvoir jouer que 20 minutes sur ce jeu-là. Bah du coup, ils vont jouer 20 minutes sur ce jeu-là, puis 20 minutes sur un autre, puis 20 minutes sur un autre, et ils vont pas forcément dépenser quoi que ce soit. Ils savent, ils sont habitués à ces limites-là.
C'est une affaire qui est très 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 rentable, le jeu vidéo, donc je peux t'assurer qu'il y a des tas de gens qui dépensent.
Non, mais il y a une habitude de la frustration qui devient intéressante malgré tout.
Mmh. Alors, en tout cas, ça pose bien cette question de la maîtrise de l'informatique, hein, et c'est pour ça qu'on en parle, hein, qui est centrale dans le monde du libre et qu'on revendique, et en montrant que dans le monde du jeu vidéo, il peut se passer beaucoup de choses et qu'il faut être très vigilant. Merci à vous.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.